Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
L'identité des membres du jury du 74e Festival de Cannes.
Chouette.
Chouette, on sait qu'il sera présidé par le réalisateur américain Spike Lee, mais il y aura à ses côtés Mylène Farmer.
C'est le retour enfin sur la croisette. Du 6 au 17 juillet avec masque et passe sanitaire, le nouveau classique de l'été. Avec un jury haut en couleur pour une fête du 7e art qui essaiera de faire oublier la trop longue fermeture des salles de cinéma. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des Échos. Tous les jours, la rédaction rejoue l'actualité économique, financière ou sociale. Et aujourd'hui, je vous propose de pénétrer avec moi dans l'arrière-salle des cinémas pour voir comment les producteurs ont vécu cette période étrange, un écran noir pour des nuits blanches.
Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra.
68 millions d'entrées au cinéma en 2020, presque 70% de moins qu'en 2019. C'est le bilan d'une grosse année de Covid. La conséquence de plusieurs mois de fermeture, le nombre de films à l'affiche a lui été divisé par deux selon les chiffres du CNC. Seule consolation, faute de gros blockbusters américains, la part de marché des films français a grimpé à près de 45%, 10 points de plus qu'il y a un an.
On pense tous qu'on foncerait dans le bâtiment en flammes. Mais tant qu'on ne sent pas la brûlure, on ne peut pas savoir.
Dans ce contexte, Tenet de Christopher Nolan est tout de même parvenu à attirer au 21 juin de cette année plus de 2 300 000 spectateurs, juste devant le film 1917 de Sam Mendes et Sonic le film, les seuls à avoir passé la barre des 2 millions de spectateurs pour des longs métrages sortis en 2020. Vu de ce côté de l'écran, on imagine mal la façon dont les producteurs de cinéma ont traversé cette crise sanitaire, entre tournages interrompus et cinéma fermé, entre intermittents malades et confinement. Isabelle Lesniak est partie à la rencontre pour les éco-weekends de plusieurs producteurs confirmés ou plus récents dans ce métier moins connu du grand public. Le producteur est moins sous les feux de la rampe que les acteurs ou même les réalisateurs. Mais au fait, Isabelle, à quoi sert-il ?
C'est vrai que le métier de producteur est assez peu connu. On a aussi du mal à l'identifier par rapport au distributeur ou à l'exploitant. En fait, c'est sans doute le métier le plus complet et moi je trouve le plus passionnant de toute la chaîne parce qu'il touche à la fois en fait à l'artistique et au financier. Donc on pourrait dire que le producteur, c'est le chef d'entreprise, c'est lui qui prend le risque financier de faire le film et donc il est finalement impliqué dans ce produit qui est le film depuis le début. C'est lui qui lit les scénarios qui lui arrivent, la conception du projet. Il s'occupe aussi de trouver le casting, il met sa patte sur le déroulement du projet et il l'accompagne en fait financièrement puisque c'est lui qui doit regarder si c'est faisable financièrement, trouver des partenariats, établir des montages financiers. Donc finalement, c'est le maillon fondamental qui est à l'initiative du film et qui a la responsabilité du film jusqu'à son achèvement. Et il est aussi responsable de la bonne organisation des tournages, des plateaux. Il faut que tout se passe bien, que tout se passe dans les temps, qu'il n'y ait pas de catastrophe. Et donc c'est pour ça, évidemment, que le producteur s'est assez vite retrouvé confronté avec le Covid.
Il est vraiment là de A à Z, en fait, dans la conception d'un film.
C'est ça. C'est vraiment lui qui accompagne le tout et à la fois au niveau de l'éditorial et au niveau du financement.
Oui, c'est vrai qu'il s'est retrouvé donc en première ligne avec cette pandémie mondiale, cette crise sanitaire. Ça a été particulier particulièrement compliqué justement pour boucler ou tenir les budgets des films ?
Oui, tout à fait. Alors déjà, les financements de films en France, c'est moins fast que ça ne l'a été. Donc ça intervient évidemment dans un contexte de financement plus compliqué. Et là, évidemment, ça ajoute à la note. Il y avait donc Romain Rousseau, un jeune producteur de Nolita, qui produit notamment les films de Jean-Paul Rouve ou de Lucien Jean-Baptiste, qui me disait que finalement, ils passent leur vie, maintenant, les producteurs, à essayer d'éteindre des petits incendies. Et donc, sur le tournage, c'est vrai qu'il me listait toutes les nouvelles contraintes. Il faut recruter un ou plusieurs référents Covid. Alors, c'est souvent un technicien qui est finalement remis à ce poste. Alors, d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'on a vu les premiers films où les référents Covid étaient crédités au générique, par exemple dans Petite Maman de Corinne Siama. Donc, ce recrutement des référents Covid, il faut recruter aussi une infirmière qui vient tester l'équipe deux fois par semaine. Il faut distribuer des masques, et c'est pas quelques masques, c'est plusieurs centaines de masques par jour. Ils ont dû aussi réorganiser la cantine pour éviter que les gens se croisent, mettre des plexiglas, faire plusieurs services, désinfecter les décors. Quelquefois, les décors aussi sont restés, quand il y avait interruption de tournage, vides, donc il a fallu les faire garder. Et donc, tout ça a créé une ambiance vraiment très particulière pour le producteur et ses équipes sur les tournages. Il faut dire aussi que normalement, il y a quelque chose qui sert à fédérer les équipes, c'est le pot. Alors, le pot de chaque fin de semaine et le pot final. Et là, évidemment, ils sont bannis en période de Covid. Donc, ça a augmenté la tension entre les différents participants.
Oui, pas de peau, de la distanciation, du gel à s'appliquer très souvent, sont des contraintes effectivement à gérer, c'est ce qu'ils vous ont expliqué Isabelle, mais il y a aussi des contraintes financières du coup afférentes à cette période.
Oui, alors justement sur un film produit par les deux producteurs de Nolita qui s'appelle Tempête, c'est un gros budget, c'est 14 millions d'euros, alors en général en France un film c'est plutôt entre 3 et 4 millions, donc là on est largement au-dessus. Donc sur un film comme Tempête, qui est un drame hippique, le surcoût en fait lié à toute cette petite mesure Covid, ils l'ont chiffré entre 300 000 et 500 000 euros. D'autres gens me disaient que c'était plutôt 100 000 à 300 000 euros pour un film et 50 000 à 100 000 pour une série. Et donc ça, c'est évidemment une somme dont il faut tenir compte. Et pour reprendre l'image des petits incendies, quelquefois ça devient un énorme brasier quand le tournage s'interrompt parce qu'il y a des cas de Covid. Alors depuis un an, le CNC a fait du bon boulot. Ils ont vraiment pris une initiative avec les assureurs mutualistes pour indemniser les interruptions de tournage qui n'étaient pas prises en compte massivement par les assureurs traditionnels. Mais quand même, il y a une partie qui peut rester à la charge du producteur.
Ouais, on imagine la complexité, les maux de tête budgétaires. Mais la crise sanitaire a aussi eu des conséquences sur le déroulé des tournages.
Oui, alors au printemps, on a été un peu inquiets tous, cinéphiles, parce qu'on a vu des recommandations, une liste très longue de recommandations du CHSCT qui disait qu'il ne fallait pas seulement fournir des masques et du gel, mais aussi revoir de fond en comble les scénarii pour évacuer finalement tous les plans rapprochés. Alors, à la fois les scènes d'intimité, les baisers, les plans de foule, les scènes d'action comme les bagarres ou les bousculades. Donc là, on a eu très peur. On s'est dit, mais alors finalement, un film comme Titanic sans le baiser de Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, qu'est-ce qu'il resterait de Titanic ? Et finalement, bon, on peut se dire que dans la réalité, ces recommandations sont pas trop appliquées. C'est vrai que les producteurs font un énorme effort pour réorganiser le tournage des scènes pour, par exemple, que les scènes d'embrassade ou de foule soient mises tout à la fin du tournage pour limiter les risques pour la suite des événements. Mais elles auront encore lieu et on verra des baisers, on verra des bagarres dans les films ces prochains mois.
Vous m'avez fait peur, je commençais à imaginer le prochain James Bond en mode feutré, sans bagarre, style combat dans l'ascenseur, des diamants sont éternels, avec un Sean Connery qui ne s'embarrassait pas de la règle de la distanciation sociale.
« Alors oui, vous parliez de James Bond, il y a un autre blockbuster, c'est Batman. Et bien Batman, enfin, il y avait évidemment l'effet chauve-souris, mais pas seulement. Robert Pattinson a été testé positif, donc alors que c'était une grosse machine américaine, on peut s'imaginer que pas mal de précautions avaient été prises. En fait, sur un tournage, même avec des limites à la distanciation et de la distanciation sociale, c'est quand même vraiment très difficile de pratiquer les mesures barrières. En fait, ça a pu bien se passer pour quelques films qui ont été tournés à huis clos. J'avais une productrice qui s'appelle Caroline Bonmarchand, qui est en train de produire le prochain film de Sébastien Marnier qui s'appelle L'Origine du Mal. Et elle en garde un souvenir enchanté parce qu'en fait, toute l'équipe s'est retrouvée dans une grande maison pendant 4 semaines dans le sud de la France, sans figurant. Toute l'équipe dormait au même endroit dans une sorte de camping de luxe. Personne ne repartait à Paris ou ailleurs pendant les week-ends. Donc là, évidemment, c'était une espèce de bulle et ça s'est très bien passé. Dans la majorité des cas, ça se passe moins bien. J'ai eu aussi des producteurs qui étaient en train de tourner à Calais pendant l'explosion du variant anglais en janvier. Une autre qui avait un film à Briançon à l'automne quand il y avait un cluster. Et donc, évidemment, là, c'est quand même très difficile de ne pas être contaminé. En fait, selon nos sources qui ne sont pas officielles, mais qui sont de bonnes sources, 60 à 70 films français, tournages français, ont bénéficié du fonds Covid. Donc, il y a eu des interruptions de tournage sur au moins 60 à 70 films.
Pourquoi est-ce que les producteurs ont pris la décision de continuer à tourner alors que les salles de cinéma étaient fermées ?
Alors finalement, c'était un grand bonheur pour eux de retrouver, après le premier confinement où tout s'est arrêté, de retrouver les plateaux, de refaire travailler les équipes, alors les stars et aussi tous les techniciens. Donc finalement, personne s'est trop posé la question de ce qui allait se passer après et de l'embouteillage de films en train d'être tournés. Il y a quelques cas de gens qui ont réfléchi à ça, notamment Sidonie Dumas, la patronne de Gaumont, me disait qu'ils avaient arrêté tous les tournages entre janvier et mai 2021 parce qu'on se doutait qu'après, ce serait difficile de dater les films. Pour Gaumont, c'est une vingtaine de films qu'il a fallu dater lorsque les salles ont repris leur exploitation. Et donc, ça va déborder forcément sur 2022. C'est la conséquence collatérale de ces tournages qui, finalement, ne se sont arrêtés que pendant le premier confinement.
On sait que le moment le plus important, finalement, pour un film, c'est lorsqu'il arrive au cinéma, lorsqu'il est projeté pour la première fois devant un public qui va réagir, rire, pleurer ou parfois s'en aller, ça peut arriver aussi. Qu'est-ce qu'ils ont ressenti face à cette absence du public ?
Bah, c'était vraiment un moment très triste. C'était jamais arrivé, en fait, depuis l'histoire du cinéma, puisque même pendant les guerres, les cinémas n'avaient jamais été fermés. Et donc là, entre octobre et mai, c'était 201 jours de fermeture. Donc ça leur a semblé vraiment très, très long. Et en particulier aux films qui étaient sortis juste quelques jours. Donc c'est ADN, c'est Adieu les cons, c'est Garçons chiffons, qui commençaient bien, mais qui ont été vraiment fauchés en matière d'exploitation après 8 jours. Voire 2 pour ADN. Et finalement, les producteurs n'ont pas voulu les placer sur les plateformes. Donc, ils ont décompté les jours et l'absence du public en se demandant aussi, avec un peu d'angoisse, si finalement les habitudes qu'on avait tous prises pendant les confinements de regarder Netflix, de regarder Amazon Prime allaient perdurer. Et est-ce que finalement, le rendez-vous dans une salle obscure avec des gens qu'on ne connaît pas pour partager la même émotion, est-ce que ça allait revenir ? Bon, on a vu que même si maintenant la fréquentation se tasse un peu les dernières semaines, il y a eu quand même 6,3 millions d'entrées entre le 19 mai et le 15 juin. Donc on voit que les Français particulièrement attendaient ce moment de retourner au cinéma.
Oui, c'est exactement ça, Christophe. Je suis devant les MK2 Bibliothèque et vous allez voir sur les images de Nicolas Béart, c'est une image qui fait plaisir ce matin. Regardez cette file d'attente, ce nombre de spectateurs qui sont venus des Potron-Minet pour se faire une toile, tout simplement, à 8h du matin, parce que c'est l'heure de la séance, 8h du matin pour voir Mandibule.
Ouais, ils ont envie de rattraper le temps perdu, c'est sûr, alors que les cinémas ont rouvert depuis quelques semaines. Il y a quand même embouteillage pour les sorties en salle, hein. Beaucoup de films qui attendent et qui trépignent, j'ai envie de dire. C'est un vrai casse-tête pour les producteurs ?
Oui, alors, c'est l'expression consacrée, c'est le nombre de films sur les étagères, comme ils le disent tous. Et donc, il y en avait 400 sur les étagères le 19 mai, donc 150 Français et 250 étrangers. Donc, on voit qu'actuellement, il faut pas louper un film qui sort la première semaine parce qu'il y a grande chance qu'il ne sera plus en deuxième semaine à l'affiche. Il y en avait une trentaine au début chaque mercredi. Donc évidemment, c'était une casse-tête pour placer ces films, mais sans se cannibaliser les uns les autres. Et même quelquefois, par exemple, pour Gaumont qui avait 20 films, il pouvait se trouver qu'un mercredi, ils auraient été tentés de mettre deux films de leur écurie l'un face à l'autre. Donc ça, c'est vraiment très compliqué pour trouver la moins mauvaise date de sortie. Certains films, la date s'impose un peu d'elle-même. Je pense par exemple à 5e set qui est sur un champion vieillissant de Roland-Garros. Évidemment, la sortie a été consécutive à la fin de Roland-Garros parce que ça faisait sens dans l'actualité. On peut penser au Tuche 4 qui se passe à Noël et donc quand il a été repoussé, c'est forcément jusqu'à Noël prochain.
Noël, c'est comme les frites! C'est quand on veut.
Mais pour plein d'autres films, en fait, c'est vraiment la responsabilité du producteur avec le distributeur, évidemment, en concertation, de regarder qu'est-ce qu'il y a de prévisible comme concurrence ce mercredi-là. Est-ce qu'il y a des vacances scolaires? Est-ce que c'est un film un peu saisonnier? Et du coup, il y a des tentatives. Par exemple, le prochain OSS 117 sera début août. Donc, c'est pas du tout une habitude pour les films français. Quelquefois, aux États-Unis, les blockbusters sortent pendant l'été, mais en France on a plutôt évité jusque-là. Eric Altmaier, le producteur, dit qu'il va le marketer comme une sortie familiale, pas seulement liée aux grandes villes, et donc il espère que OSS, face à une concurrence moindre la première semaine d'août, peut finalement tirer son épingle du jeu.
J'aurais dû prendre mon slip de bain.
Il ne vous manque rien.
Maintenant, non.
Chez certains producteurs que vous avez rencontrés, moi, ce que j'ai ressenti quand même en vous lisant, c'est qu'il y avait presque parfois de la détresse.
Ça s'est à peu près bien passé pour ceux qui avaient des films en écriture ou en développement, puisque eux, ils ont pris le temps de plus peaufiner les scénarios, de se parler, de travailler ensemble. Pour ceux qui étaient dans le dur, c'est-à-dire qui avaient des tournages, voire des films qui sortaient, c'était beaucoup plus compliqué. Il y a un peu un cas d'école malgré lui, c'est le producteur François Cros, qui avait notamment produit La Bonne Épouse. Alors lui, il a vraiment joué de malchance pendant toute l'année. La Bonne Épouse, donc, était de ces films qui avaient été fauchés en pleine exploitation la première semaine durant le premier confinement. Il avait aussi un film très attendu d'Emmanuel Berco qui s'appelle De son vivant avec Catherine Deneuve. Alors, le tournage avait déjà été interrompu avant le Covid à cause de l'AVC de Catherine Deneuve, et là, de nouveau, il a été interrompu. Donc, finalement, il avait recréé un décor d'hôpital qui restait un an vide et donc sous gardiennage. Et il avait aussi deux films en préparation qui ont été arrêté. Et la nouvelle saison de Family Business pour Netflix qui était en post-prod et qui aussi a été stoppée. Donc lui, il est sorti de l'année complètement lessivé et traumatisé.
Ouais, on n'est pas loin de la catastrophe industrielle, effectivement, pour certains producteurs. Et pour certains films, on sait que le mal est fait, hein, notamment si on rate, un peu comme les Français à Roland-Garros, la deuxième semaine au cinéma. Comment est-ce qu'ils se préparent à donner une seconde vie à leurs films? Ils comptent sur la télé?
Oui, et surtout sur la VOD, en fait. Alors, il y a eu, pendant le premier confinement, une expérience du CNC dérogatoire donc à notre chronologie, notre fameuse chronologie des médias. En fait, une trentaine de films ont pu bénéficier donc de cette dérogation, c'est-à-dire ne pas attendre les 4 mois entre la sortie en salle qui avait été écourtée et la sortie en VOD. Donc c'était des films comme La fille au bracelet, Une sirène à Paris ou Un divan à Tunis. Mais ça a été juste une fois, c'était une sorte d'expérience qui n'a pas été renouvelée. Donc maintenant, oui, il n'y a plus qu'à compter sur la seconde vie VOD puis les chaînes traditionnelles. C'est quand même compliqué parce que, par exemple, la comédie Miss n'a pas été très longtemps à l'affiche en octobre. Du coup, au bout des 4 mois, elle a basculé en VOD. Mais cette comédie n'avait pas eu, en fait, le bouche à oreille, les discussions de machine à café. Et donc, il est arrivé ce film un peu incognito sur les plateformes de VOD, et il n'a pas non plus fait une énorme carrière là-dessus parce qu'il n'avait pas l'exposition et le bouche à oreille de la la salle. Donc tout ça est quand même assez lié.
Le financement du cinéma, c'est quelque chose d'assez complexe. Il y a de nombreux intervenants, notamment les chaînes de télévision, mais pas que. Vous racontez d'ailleurs que ça a pu parfois entraîner des tensions avec les producteurs ?
Alors surtout pour les films qui en fait étaient conçus pour la salle et qui ont bifurqué vers les plateformes en cours de route. Donc ça, c'était pas le contrat initial établi par le producteur et par toutes les parties prenantes. Donc je pense notamment à deux films, Bronx d'Olivier Marchal, que Gaumont destinait à la salle, mais en fait Netflix est démarché en disant que c'est un film de genre, que ça plaît beaucoup au public, notamment américain, et c'est vrai que ça a été un carton aux États-Unis. Il y a aussi Madame Claude sur Netflix. Ces films ont bifurqué, et peut-être qu'ils ont eu plus d'audience, notamment à l'international, que s'ils étaient restés en salle, mais il faut quand même que tout le monde soit d'accord pour prendre cette décision, et c'est vraiment pas simple. Quelquefois, le réalisateur, les acteurs veulent que leur film soit vu, donc eux seraient plutôt partisans de le placer sur les plateformes. Les gens qui ont financé les guichets, Canal+, les OCS et autres, ils se retrouvent tout à coup à avoir financé une partie d'un film qui va leur échapper en première diffusion, puisqu'il sera sur Netflix ou sur Amazon, et donc c'est évidemment très compliqué de renégocier le contrat en cours de route et en fait de trouver une nouvelle solution pour que toutes les parties prenantes soient remboursées, soit aient un autre créneau d'exploitation.
On sent toujours une certaine méfiance du monde du cinéma à l'égard de Netflix ou d'Amazon Prime. Pourquoi ?
Alors c'est vrai, c'est en train de changer. On l'a vu, pas en France, mais même avec Spielberg, qui était très réticent, qui disait souvent que si vous vous engagez sur le format télé, vous faites des téléfilms. Et ben ça semble moins vrai maintenant pour lui, puisque sa société a passé un contrat avec Netflix pour deux films par an. Mais c'est vrai qu'il reste quand même cette idée de qu'est-ce que c'est qu'un film de cinéma ? Est-ce qu'un film est forcément au cinéma ? Il y a des réticences. Par exemple, le Festival de Cannes a décidé de ne pas déroger à sa règle traditionnelle, qui est que pour être en compétition, un film doit avoir été montré dans une salle de cinéma français. Bon, faut dire que le Festival de Cannes, là, est un peu le dernier des Mohicans. Même les Oscars, surtout cette année, a accepté des films Netflix, et finalement, il y en a eu 7 qui ont été primés aux derniers Oscars. Faut voir quand même que, à la fois, la créativité, les efforts en termes de diversité, les moyens, évidemment, financiers, sont quand même pas mal du côté des plateformes et que ça peut convaincre les derniers réticents de tenter l'expérience. Eric Altmaier, donc le producteur d'OSS, mais aussi de L'autre côté du périph, pour la suite de L'autre côté du périph, donc le tourne pour Netflix. Il dit que Netflix lui a donné 20 millions d'euros, alors que s'il avait été dans le schéma traditionnel cinéma, il en aurait eu 16 ou 17. Donc évidemment, ça l'a fait réfléchir et ça a emporté sa décision.
Des palissades, objet de toutes les curiosités, car derrière a lieu le premier tournage à Paris depuis la fin du confinement. Ça fait du bien aux passants.
Il paraît que j'ai vu Gilles Lelouch, que j'ai pas reconnu parce qu'il était trop loin et que j'ai pas une très bonne vue. Et puis sinon, voilà, on a vu les personnages d'époque, c'est ça qui est rigolo.
Un dernier mot pour terminer sur une note peut-être plus optimiste. Il y a rarement eu autant de tournages. Ça veut dire que la machine du cinéma français tourne de nouveau à plein régime ?
Oui, c'est vrai. Et pas seulement français, le cinéma français, mais même le cinéma international qui tourne en France. C'est vrai que dès qu'on se promène à Paris, on voit partout les petites affiches qui annoncent des tournages. Alors, des gros tournages, il y a quelques semaines, comme Notre-Dame de Jean-Jacques Haneau, ou des films de Valeria Brunet-Tedeschi ou de Mia Hansen-Love. Mais c'est vrai aussi que c'est pas seulement des tournages de films français, c'est aussi des gros tournages étrangers. On attend Keanu Reeves cet été à Paris pour le John Wick 4. On attend Ryan Gosling à Chantilly pour un tournage Netflix. En fait, il y a un boom des tournages parce que ça c'était la période qui l'a enclenché. C'était la période pas du premier confinement, mais des autres confinements. Les gens se sont habitués en fait à tourner dans des conditions très favorables pour les tournages. tournage et les plateaux, puisque en fait les rues étaient plus vides que d'habitude, donc évidemment pour des scènes soit historiques, soit des scènes compliquées de course-poursuite, on avait moins à embêter les gens en bloquant la circulation. Et finalement les gens disent qu'on a eu ces derniers mois des tournages, un niveau de tournage qui était digne normalement du 15 août, qui est la période faste pour à la fois météorologiquement parlant et pour ces contraintes moindres de forte fréquentation des rues. Et donc ces derniers mois c'était les mêmes niveaux de fréquentation. Finalement il y avait des producteurs qui me disaient qu'ils ne trouvaient plus de camions ni de moyens techniques disponibles tant il y avait de tournages concurrents partout en France.
Merci Isabelle Lesniak, journaliste aux Échos. Vous pouvez retrouver son enquête dans le numéro spécial Cannes des Échos Week-end, disponible chez tous les bons marchands de journaux. Et dans Les Échos, le podcast des Échos, on vous donne rendez-vous dans quelques jours avec un producteur, pas celui des Tuches, mais celui du prochain Michel Larocque, devant et derrière la caméra. Il nous racontera comment il a éteint de multiples petits incendies durant la pandémie. Cette émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition, Michel Varnet. Oui, c'est fini.